Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Voilà, j'aurais bien aimé passer comme une petite souris aujourd'hui au milieu de vous, et plutôt écouter que parler. Mais avec Michel, c'est difficile. Et puis, bon, j'accepte toujours un peu quand même, malgré tout, parce que j'ai été jeune. J'ai un peu de cheveux blancs maintenant. Et que je sais que dans une église... C'est pas ici, hein, je parle des églises en général, pas de celle qui est chez vous, mais on a l'habitude de s'endormir au ronron du même prédicateur. Alors on aime bien des fois quand un autre vient d'ailleurs, ça secoue un peu les habitudes et ça réveille un peu l'église. Je dis ça, pas ça pour vous, mais je le dis parce que je l'ai constaté quand j'étais jeune. Donc il va falloir que vous me supportiez. Quand Michel m'a demandé, j'ai tout de suite eu devant moi deux thèmes qui se sont présentés, je ne sais pas pourquoi, et puis je l'ai dit à Michel, je ne sais pas lequel des deux je vais choisir de ces deux thèmes. Le premier était un thème qui touchait à l'actualité, tout particulièrement, et le second était un thème qui touchait à l'actualité tout particulièrement. Alors, lequel des deux je devais choisir ? Ce qu'il y a, c'est que l'un touchait l'actualité par l'extérieur et l'autre le touchait par l'intérieur. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors j'ai choisi celui qui touchait l'actualité par l'intérieur parce que l'extérieur, on l'entend un peu trop parler. Par contre, on a besoin de revenir à ce qui est de l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est de Dieu, de ce qui est dans la parole, de ce qui nous révèle. Alors la première question que je poserai, qu'est-ce qu'un chrétien ? Est-ce quelqu'un qui vient à l'église tous les dimanches, sagement ? Est-ce quelqu'un qui fait partie de nos pays dits chrétiens ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Quelle est la définition dans la parole qui peut nous donner, qui peut nous faire toucher du doigt ce qu'est, ce que nous sommes par grâce ? Mais moi, je vais le chercher dans... On va aller le chercher tout de suite dans l'Apocalypse, puisque c'est là que se termine notre vie chrétienne, ou plutôt qu'elle se termine, qu'elle se prolonge dans l'éternité. Et vous savez ce que chantent les rachetés dans le ciel, dans Apocalypse 5 ? En parlant de l'agneau dont on n'a pas rappelé qu'il est mort sur la croix, une fois pour toutes, le vrai agneau, l'agneau, vrai agneau pascal, préconnu dès avant la fondation du monde, comme il est dit dans l'épître de Pierre. Il est dit au chapitre 5 et au verset 6, 9, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté » pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Tu as racheté. Ce mot m'a interpellé un jour. Nous sommes des rachetés. Nous étions perdus. Il a fallu que nous soyons rachetés. N'est-ce pas ? J'espère que tous ici, nous sommes dans cette position de racheter. On a vu le prix qui a dû être payé pour nous racheter, en nous souvenant du Seigneur. Racheter, quelle expression extraordinaire de celui qui est venu ici-bas pour nous racheter. Et il n'y a pas si longtemps que cela, je relisais le livre de Ruth, et j'ai été frappé par le livre de Ruth. Je ne vais pas le relire avec vous tout maintenant, parce qu'on en aurait jusqu'à demain matin, pour s'arrêter. Et je ne voudrais pas non plus entrer dans les détails du livre de Ruth, qui est d'une richesse infinie. Il y a tellement de choses à méditer dans le détail de tout ce qui est donné dans le livre de Ruth, pourvu qu'on se mette en dehors de ce qui est... On a tellement vite fait de lire ces choses-là, et je vais en dire deux mots tout à l'heure, en les ramenant à nous-mêmes et à notre humanité, à notre vision des choses au lieu d'avoir la vision céleste, c'est-à-dire la vision de ce qui ne se voit pas mais qui est éternel. Alors je ne vais pas lire tout Ruth, on va en lire... Et j'ai été très frappé du plan de Ruth, en quelque sorte, ou de la manière dont... Bon, je ne m'attache pas du tout au verset des Écritures, parce que ça a été fait par Olivier Tange, je crois, sauf erreur. Mais malgré tout, il y a des fois où c'est utile, pour mémotechnique, c'est un moyen utile. Et donc, il y a 4 chapitres dans Luc. Dans Ruth. Il y a 4 chapitres. Et j'ai été frappé de voir que chacun des chapitres parlait de l'étape qui conduisait au rachat. Vous savez que c'est tout à fait à la fin du livre de Ruth qu'on voit qu'elle a été rachetée par Boaz. Et comment en est-elle arrivée là? Et je crois que c'est utile pour nos vies, et c'est utile pour en aider d'autres à grandir dans la foi. Parce qu'on va souvent beaucoup trop vite pour passer de ce qu'on appelle la conversion à dire « ça y est, c'est fini ». Non, c'est pas fini. Tout le travail de Dieu commence, si j'ose dire, pour aller jusqu'à cette position de plénitude qui est le rachat. Alors, on va essayer d'en voir quelques traits. Je ne vais pas tout lire, je vais simplement donner quelques points de ces 4 étapes, si j'ose dire, que Ruth a dû connaître pour en arriver là où elle a pu donner naissance, vous le savez, à un arrière-grand-père de Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire. Entrant dans la lignée de Christ, elle, une Moabite. Moab, le peuple rejeté par Dieu. Alors dans le chapitre premier, déjà, je vais lire simplement 2 versets ou 3. Chapitre 1er de Ruth, vous savez comment... Alors, vous savez que dans la parole, il y a 2 livres qui portent des noms de femmes, Ruth et Esther. Ruth commence par quoi? Par une famine. Esther commence par quoi? Par un banquet. Par l'abondance. C'est 2 livres qui porte un plan de Dieu magnifique. Mais on va revenir sur Ruth maintenant. Ruth commence par la famine. Vous savez, Abimélec va partir avec Naomi et leurs 2 fils pour aller dans le pays de Moab parce qu'ils avaient vu que là, c'était meilleur. Hein ? Moi, ça me parle. Est-ce que je ne regarde pas le monde des fois en disant « c'est quand même un peu meilleur là-bas » J'aimerais bien un peu de temps en temps prendre un peu de repos avec les gens du monde. Au ski nautique, à ceci, à cela, n'est-ce pas? C'est tellement agréable, les pieds dans le sable. Oui, mais voilà, ils sont partis. Vous savez la suite? La mort. Mort d'Abimélec, mort des 2 fils. Et cette femme, Naomi, se retrouvant seule. Entre-temps, les 2 fils avaient pris des épouses, des Moabites. En allant dans le monde, on récupère des enfants du monde. Mais c'est de Ruth que je veux parler. Alors, Naomi me dit ici, au verset 8, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, alors, je ne lis pas tout Ruth, mais j'espère que quand on aura fini ce message, en rentrant chez vous, vous le lirez tout entier. C'est mon but. C'est pas de parler, mais c'est de vous faire lire la parole et la rechercher. Allez, et que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et puis, il est dit plus loin, vous le savez, une seconde fois, au verset 14, elles élevèrent les voix, les deux belles filles, Orpa et Ruth. Mais Orpa baise sa belle-mère et s'en va. Il y a déjà ici la séparation. Celle qui va revenir vers le monde et Ruth qui va partir avec Naomi. Alors ce très beau passage que nous connaissons tous. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur, répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Quelle détermination, bien-aimé, dans le cœur de cette jeune femme, veuve, n'ayant trouvé auprès de sa belle-mère rien que la mort. Que l'Éternel me traite avec, dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et Naomi, voyant décider, c'est ça d'insister auprès d'elle. Quelle détermination. Alors, il y a déjà, il semblait quelque chose d'extraordinaire, déjà une réponse à bien des questions que vous entendez dans le monde. Tout à l'heure, vous allez sortir dans le monde, peut-être, pour aller faire de l'évangélisation dans les rues. On vous dit, oui, les chrétiens, ils sont pas meilleurs que les autres. Hein. Ça vaut pas la peine de suivre les chrétiens, ils sont pas meilleurs que les autres. Naomi était-elle meilleure que les autres? Pour que Ruth s'engage à la suivre ainsi? Que lui avait-elle apporté la mort? Parce qu'elle avait désobéi avec son mari. Mais quand Dieu travaille un cœur, rien ne l'arrête. Ruth ne se laisse pas arrêter par l'apparence des choses. Dieu a travaillé dans son cœur. Elle a dit, j'irai dans ce pays. Et elle va réaliser ce qui est dit dans le psaume 45. Écoute, fille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Et le roi désirera ta beauté. Elle va parce qu'elle a le cœur rempli. Elle va quitter tout. C'est ça la conversion. C'est se tourner, définitivement quitter les choses que l'on a vécues jusque-là pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai qu'elle ne connaît pas. Je ne pense pas que l'exemple de Naomi a été un bel exemple pour elle. C'est pas là la question. Dieu a travaillé son cœur, elle dit « J'irai ». Et rien ne m'arrêtera que la mort. Avons-nous eu un jour cette détermination de se tourner définitivement et de manière catégorique pour dire « J'irai ». Rien ne m'arrêtera. J'irai. Quel bel exemple que celui de Ruth ici. Quel exemple encourageant, bien-aimé. Mais quel exemple sérieux aussi. Parce que elle y va de tout son cœur. Et elle va dans un pays qu'elle ne connaît pas. Combien, vous l'avez constaté aussi de fois, et nous on le voit particulièrement à Gramma, où on a pas mal d'opposition à l'extérieur, mais pour faire franchir la porte à quelqu'un de l'Église. Il faut un miracle de Dieu, je dis. C'est pas nous qui pouvons le faire. Il faut vraiment, comme pour Ruth, soit le miracle de Dieu pour qu'elle quitte tout et aille dans le pays dont elle n'avait entendu parler peut-être, mais pas en bien, puisque c'était une famine qui avait amené cette famille en Moab. Premier pas de Ruth. Elle est déterminée. La conversion, c'est ça, c'est ce demi-tour que fait le fils prodigue. Quand il dit « J'irai mon bon père » et je dirai « Père, j'ai péché contre le ciel devant toi », plus rien ne l'arrête. Il a dit « J'irai, j'irai ». Il ne sait même plus quel est son père, on en parlera peut-être à Rehoboth. Il ne sait même plus quel est-il, parce qu'il dit « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Il ne sait même plus, il pense même qu'il va être traité comme un esclave. Que fait le père? Et ici, Ruth n'a même pas cela devant elle. Elle n'a rien, le vide. Sa belle-mère avec elle, c'est tout. Et qui revient brisée, si vous lisez tout le chapitre premier, vous verrez comment Naomi est brisée. Elle dit, quand elle arrive à Bethléem, elle dit, ne m'avez plus appelé plus Naomi, appelez-moi Mara. Amertume. C'est tout. Premier pas de Ruth. Deuxième pas de Ruth. Deuxième chapitre. Ruth, la Moabite, dit à verset 2, la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. À quoi je vois une vraie conversion? À quoi je vois une vraie repentance, un vrai travail de Dieu? La personne a faim. Elle a faim de Dieu. Elle a envie de glaner dans le champ de Dieu. Elle dit, je me laisserai conduire. Je serai. Je trouverai de quoi glaner, c'est la moisson des orges. Quand je vois des jeunes qui me parlent de conversion, mais qui malheureusement repartent dans le monde en allant faire des lectures et tout un tas de choses. Il y a tellement d'attraits dans le monde. Internet, la télévision, les ceci, les cela, les revues. Est-ce que ça, c'est pour notre nourriture? Est-ce que ça, c'est notre nourriture? J'irai glaner. J'ai besoin de nourriture. Je suis là dans un pays où il n'y a rien pour moi. Est-ce que nous sommes dans le monde, dans un désert où il n'y a rien pour nous? J'irai glaner. Elle va aller glaner toute la journée. Vous le savez, tout ce qu'elle va ramener à la maison. Et en glanant, quand on lit l'Écriture, on rencontre qui? Quand on lit l'Écriture, qu'est-ce qui remplit l'Écriture? Sinon Jésus-Christ. Quand on lit l'Écriture, quand on veut se nourrir, le divin Boaz apparaît. Et il invite. Et il donne à manger. Et vous savez, tout ce qui s'est passé dans cette journée magnifique, dont il est parlé ici, qui a duré, après il y a eu plusieurs journées, mais cette première journée de la rencontre avec Boaz, il va l'inviter. Il va lui dire aussi, ne va pas glaner ailleurs. Attention, les pièges, les dangers. Hélas, aujourd'hui, que de sectes, que de milieux, que d'invitations à l'extraordinaire. Elle va rester dans le chemin de l'ordinaire, de ce travail, de se baisser, de ramasser. Toute la journée, diront les serviteurs, ce qu'elle s'est été assise est peu de choses. Elle a travaillé, elle a cherché avec soin. Celui qui cherche, trouve, dit le Seigneur. Elle a cherché à se nourrir, elle a ramené. Et ensuite, ce qui est magnifique aussi, elle partage ce qu'elle a ramené du repas même qu'elle a pris avec Boaz. Elle en a gardé pour elle, parce que ce terrain sur lequel elle est ne la rend pas égoïste. Au contraire, ça la rend riche pour donner. Et elle aurait pu tout manger de ce que Boaz lui a donné à table. Non, elle en a mis parce qu'elle pensait à sa belle-mère qui était à la maison et qui avait besoin, elle aussi, de se nourrir en revenant des champs de Moab où elle avait, hélas, trouvé que la mort. Il fallait maintenant qu'elle retrouve la vie et cette vie soit nourrie par Jésus-Christ. Alors elle va apporter ce que Jésus-Christ, ce que Boaz lui a donné. Et elle revient, elle apporte. Voilà le second. C'est ce besoin de se nourrir et qui amène aussi ce besoin de témoigner, de venir dire, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai glané aujourd'hui. Oh, pas en me promenant, pas en sifflant l'air, non. La lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas une promenade. C'est vraiment quelque chose qui est fait avec prière, avec détermination, avec obéissance. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, moi je lis la Bible avec sur la chaise longue, avec un verre de whisky à côté. Et je passe mon temps et ça me permet de méditer. Oui, je veux bien. Je ne pense pas que quand David a écrit le psaume 22, il avait le rocking chair et le verre de whisky à côté de lui, c'est tout. C'est ce que je lui ai répondu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qu'il soit si près de son maître, il n'a pas fallu qu'il soit trop facilement. La facilité ne fait pas partie des plans de Dieu. On croit que parce qu'on est converti, ça y est, tout va être facile. C'est pas facile pour elle. C'est pas facile pour elle. Je crois que c'est même beaucoup plus difficile. Elle aurait été revenue chez son père l'aurait recueilli bras ouverts, et puis on aurait recommencé la vie, comme certainement pas l'a fait. C'était pas facile. Mais il y avait quoi derrière? La bénédiction. Voilà ce qui rendrait le chemin facile pour cette femme. Deuxième étape, donc, ce besoin de se nourrir. Et je crois que c'est ça qui a ouvert les yeux aussi à Naomi pour la suite. Parce qu'elle va la conseiller maintenant. Et si j'ose dire, en lui apportant la nourriture de Boaz, elle a ramené Naomi à la vie. Elle qui était sur le terrain de la mort. Et Naomi va la conseiller. Alors ce chapitre 3, c'est le plus contesté, et le plus, celui justement que si on le regarde avec nos yeux charnels, on ne comprend pas du tout, du tout, du tout. On en arrive à dire que ce chapitre permet maintenant aux jeunes gens de flirter, avant de se marier, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'on en arrive à dire. Ce n'est pas du tout ce qui est dit dans ce chapitre. Et si vous lisez bien le chapitre suivant en plus, on voit très bien que Naomi, quand elle s'est approchée de Boaz, c'est pas du tout dans ce but-là. Et ça, je veux le dire catégoriquement aujourd'hui au milieu de la jeunesse. Ce n'est pas du tout dans ce but-là. Naomi a discerné quelque chose, parce qu'elle est revenue à la vie, elle a pu le dire. Va te retrouver dans la nuit morale, seul à seul avec ton Seigneur, celui qui a le droit de rachat sur toi. Tu as besoin de cet entretien personnel avec Jésus-Christ. On a besoin de cet entretien personnel avec Jésus-Christ et on ne peut pas y éviter. Toute vraie conversion qui n'est pas suivie de cet entretien risque très vite d'être attirée par les subtilités du sifflement du serpent pour nous retourner dans une autre situation et nous ramener. Merci Seigneur, il veille sur elle, il veille sur vous, il veille sur nous. Si vraiment les deux premiers pas déjà nous avons fait avec toute l'énergie de la foi, il y a un verset magnifique des Philippiens qui dit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Donc je pense, je ne veux pas dire que pour autant ces pas ne sont pas risquent d'être abandonnés. Non, je pense que le Seigneur veille, j'en suis persuadé. Mais il n'empêche qu'il faut passer par là. Moïse, avant d'être renvoyé vers l'Égypte pour délivrer ses frères, où était-il ? Moi, j'aime beaucoup ce verset. Il était derrière le désert, au-delà du désert. Pire que le désert, excusez-moi de dire. Il avait traversé déjà tout ce désert horrible, n'est-ce pas ? Il connaissait tous les dangers du désert. Il était derrière le désert et c'est là que Dieu, dans le buisson ardent, s'est révélé à lui. On a besoin de ces silences avec le Seigneur, de ces rencontres avec le Seigneur. Cette écoute, seul à seul avec le Seigneur. Que dit le Seigneur quand tu pries ? Vas-y devant tout le monde, olé olé. Non, va dans ta chambre, seul à seul avec Dieu. Et lui qui va dans le secret te récompensera. Seul à seul. Et ainsi, dans le chapitre 3, et c'est ce qui est très beau ici, j'aime ce que va dire Boaz ici au verset 10, il est dit, « Sois béni de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. » Elle s'est nourrie, mais aussi, ce n'est pas simplement d'une nourriture. La Bible n'est pas une fin en soi. La Bible n'est pas... C'est vrai qu'elle m'amène à Jésus-Christ, mais j'ai besoin de cette rencontre personnelle avec mon Sauveur. C'est ce qui donne la force à toute une vie après, bien-aimé. Quand on a entendu la voix du Maître... Bon, des fois, j'entends des chrétiens qui disent « Oui, ils avaient de la chance, Moïse et tout ça, ils parlaient avec le Seigneur bouche à bouche, et moi, où est Dieu ? Je l'entends pas, oui, il est là, je l'entends. » Et quand on a appris à connaître là, la manière dont il nous parle, c'est aussi vivant que s'il me parlait. Est-ce que vous doutez de la vie de la personne qui vous a écrit une lettre ? Est-ce que vous doutez d'elle ? Est-ce que vous dites « Je le vois pas, cette lettre, elle ne vaut rien. » À la poubelle. Vous faites comme ça ? Non. Quand vous allez être quelqu'un que vous aimez, vous la lisez, la dévorez, je l'ai souvent dit, je crois quand même l'avoir dit ici, n'est-ce pas ? Vous la mettez dans votre poche. Moi, je me rappelle quand j'étais fiancé, on s'écrivait tous les jours, parce que maintenant, vous avez Internet, là, et vous écrivez plus, c'est le drame. Moi, je trouve que c'est le drame. Nous, on écrivait tous les jours une lettre. Et quand je recevais la lettre, je la mettais dans la poche, et toute la journée, dès que j'avais un petit moment, je relisais ma lettre. Ça me rapprochait de ma bien-aimée. Est-ce que nous avons ça dans notre poche, et que dès que j'ai un petit moment, dès que je peux m'approcher du Seigneur, « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'entendre ce que tu vas me dire. » Jérémie disait, « Tes paroles se sont-elles trouvées ? Je les ai dévorées, tes paroles ont été la joie et l'allégresse de mon cœur. » Est-ce que c'est notre joie et notre allégresse que de connaître la parole de Dieu et de la vivre ? Alors, ben, on dira, je connais pas, j'y comprends rien. Moi, si, il y a bien beaucoup de passages où j'y comprends rien. Mais je continue à les lire. Parce que je sais qu'un jour, des passages que je n'avais pas du tout compris, tout d'un coup, dans une circonstance particulière, mais, Seigneur, j'ai besoin de ta réponse pour telle situation. J'ai besoin de ta réponse, je ne sais pas. Mais il dit, Eric, tu n'as pas lu quelque chose comme ça dans l'Écriture ? Ah, oui, c'est vrai, mais il y a ça dans l'Écriture. Et puis, le verset que je n'avais pas compris jusque-là, tout d'un coup, ah, c'est la lumière sur le chemin de Damas qui vous renverse et qui vous dit, mais voilà, c'est tout simple, le tout c'est de le vivre. Parce que ce n'est pas tout de le savoir. Il ne faut pas le savoir là, il faut le savoir là. Il faut le vivre, s'engager avec. Alors Naomi revient à la maison, chargée le matin. Oui, il y a un verset qui disait, j'en parlais avec Michel ce matin, il est un peu traduit chez vous dans Second un peu différemment, moi j'ai beaucoup vécu avec la Bible d'Arby, c'est pour ça. Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Elle rentre, et bon, c'est traduit dans le second par l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est la même chose. Quand j'ai un ami, j'ai des secrets avec lui. Ce qui crée l'amitié, c'est le secret que j'ai avec la personne. C'est ça qui crée une amitié. Alors, qu'on prenne une traduction ou l'autre, c'est la même chose. Elle a eu des secrets, elle rentre avec ses secrets. Et sa belle-mère sage va lui dire, bon, bouge plus, laisse faire. Le travail n'est plus le tien, c'est celui de Dieu. Mais il va le faire et je suis sûr qu'il le fera jusqu'au bout. Donc, première étape, la détermination de tout quitter. Deuxième étape, la détermination de se nourrir. Troisième étape, la détermination de connaître et d'exposer ses besoins à son bien-aimé, à celui qui va être son bien-aimé, qu'elle ne sait pas encore, qui a seulement le pouvoir de rachat sur elle. Elle sait qu'elle peut, elle a ce droit de rachat. Et pourtant, elle dira, relisez-le ces passages, elle dira, mais je ne suis qu'une étrangère ici. Et oui, moi aussi j'étais une étrangère, je suis étranger aux alliances, la promesse, je ne suis pas juif. Et c'est le chapitre 4. Si j'étais juif, oui, certainement, celui qui avait le droit de rachat en priorité m'aurait racheté, mais il n'a pas pu. Il ne pouvait pas, il dira au chapitre 4, regardez ce qu'il dit quand Boaz, donc à la porte, va réunir les anciens pour dire, voilà, il va interpeller celui qui avait le premier droit de rachat, c'est toute l'histoire, bon, il faut relire tout ce qui est le rachat dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il va dire, toi, viens ici, est-ce que tu veux racheter? Oui, je veux racheter, bien sûr. Le champ, oui, mais attends, mais si tu rachètes le champ, tu rachètes aussi moi, la Moabite, là. Là, c'est la grâce qui agit, ce n'est plus la loi qui agit, c'est la grâce. Prendre une Moabite, elle va me ruiner. Non, je ne peux pas. La grâce ne peut pas agir de cette manière-là. Prendre une Moabite, je ne peux pas. Use de ton droit. Et Moab, le divin Moab, va user de ce droit. Parce que lui nous aime. Parce qu'il veut racheter. Et pas simplement racheter les choses matérielles. Le champ d'Abimélec. Mais il veut redonner vie à la descendance d'Abimélec, selon ce qui était enseigné. Il veut me redonner la vie. Et il me rachète pour me redonner la vie. N'est-ce pas merveilleux? Il rachète Ruth pour lui donner la vie. Alors j'ai été frappé, et je ne l'avais pas vu même, je l'ai vu ce matin, en relisant encore ces passages. C'est que, il est dit ici, vous l'avez vu, donc il va racheter Ruth. Et il est dit au verset 13, ce qui montre bien d'ailleurs que le chapitre 3, il n'y a eu aucun rapport d'aucune espèce entre Ruth et Boaz, puisqu'il est dit, il prit Ruth et elle devint sa femme et il alla vers elle. Voilà le fait maintenant. Là, elle est rachetée, il va vers elle. Elle devint sa femme. Et il est dit un petit mot qui m'a frappé ce matin. Il permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Elle a vécu 10 ans avec son mari, elle n'a pas eu d'enfant. Si vous lisez avant, ils ont vécu 10 ans en terre de Moab, les filles ont pris des femmes, je ne sais pas s'ils les ont pris tout de suite ou pas, mais enfin, ils ont vécu 10 ans là-bas, elle n'a pas eu d'enfant. On trouve cela souvent dans l'Écriture, bien-aimée. Pourquoi ? Pourquoi ? On le trouve avec d'autres cas. Je ne parlerai que de ça, si vous savez, connaissez trop l'histoire de Sarah, quand elle est allée vers les deux rois, parce que Abraham a eu peur de dire qu'elle est ma femme, n'est-ce pas ? Heureusement qu'elle n'a pas eu d'enfant. Je ne sais pas si elle est allée, mais n'empêche qu'elle était dans un grand danger. Et là, elle n'a pas eu d'enfant. Et par contre, quand l'Éternel lui donne un enfant, ça montre bien que les fruits que nous pouvons porter pour la foi ne sont produits que par Dieu dans nos vies. On a beau marcher selon... Quand on n'est pas dans le Seigneur, tout ça n'a aucune valeur. Un jour, il faut que Dieu intervienne dans nos vies pour que nous portions du fruit. On n'est pas sous la loi, mais étant sous la grâce, c'est pour porter du fruit. Ce n'est pas non plus pour rester en arrière, c'est pour porter du fruit. Et vous savez, je le dis tout à l'heure, quel fruit a porté Ruth. Elle a donné naissance à Obed, hein, qui est devenu le grand-père de David. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est qu'il y a un autre point qui m'a frappé ce matin, c'est que quand ils reprennent la généalogie à la fin, Pérez en resteront, c'est ils repartent de ce qu'a dit les femmes de Bethléem, qu'elles soient comme, si vous regardez au verset 12 du chapitre 4, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée à Juda par Tamar. Tamar ici était une étrangère. Une étrangère, et l'histoire de Tamar est un peu difficile dans l'Écriture, n'est-ce pas ? Elle a dû se prostituer pour être avec son beau-père parce que lui avait cherché à éviter tout ça, n'est-ce pas ? Mais elle avait tellement à cœur les intérêts de... Elle avait vu que la bénédiction de Dieu était dans le peuple d'Israël que elle avait tellement à cœur cela qu'elle n'a pas pu lâcher la prise. Elle avait vu, pourtant, dans trois fils qui avaient été odieux avec elle, n'est-ce pas ? Elle voulait cette bénédiction et Dieu la lui a donnée. Elle fait partie, elle aussi, et on le sait, de la généalogie de Jésus-Christ. Et c'est en repartant de Pérez qu'on retrouve la généalogie au verset 19. C'est quand même assez frappant. Et en repartant de Pérez, donc d'une femme qui était étrangère à une autre femme qui était étrangère, c'est le fil d'or de Dieu. Excusez-moi. Et ce fil d'or passe par des gens comme vous et moi. Des gens qui étaient perdus, loin, dans le monde. Mais que Dieu a voulu ramener à lui. Racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quel merveilleux chemin a été fait. Mais remarquez bien qu'à la fin du chapitre 1, elle n'est pas rachetée. À la fin du chapitre 2, elle n'est pas rachetée. À la fin du chapitre 3, elle n'est pas rachetée. Ce n'est qu'à la fin du chapitre 4, au milieu du chapitre 4, qu'elle est rachetée et que là, elle porte des fruits. Un fruit magnifique. Un enfant va lui naître pour donner, pour entrer dans la lignée du Christ. Alors, bien-aimés, méditons ces choses. Ne nous arrêtons pas en chemin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne nous arrêtons pas en chemin. Ça m'a encouragé à dire, Seigneur, il faut aller. Pourtant, peut-être moi, plus beaucoup de temps pour aller encore, mais il y en a des plus jeunes ici, heureusement. Merci, Seigneur. Tout de même, on sera tous là où un jour, et puis vous savez, l'âge ne comptera plus beaucoup là-haut, hein. Face à l'éternité, je ne sais pas si c'est 70 ou 15 ans, ça ne fait pas beaucoup, la différence ne fait pas beaucoup hein, dans le ciel. Bon, alors ça ne fait rien, quoi. Hein. Alors donc, ça vaut la peine d'aller, je préfère vous le dire, ça vaut la peine d'aller glaner dans les champs. D'abord de faire ce demi-tour, de surtout ne plus regarder vers l'arrière. Quand on regarde vers l'arrière, ça y est, on est... D'ailleurs, Jacques le dit, celui qui laboure doit labourer en regardant devant. Et on le sait très bien, vous n'avez pas vécu, enfin même avec le tracteur c'est pareil, mais enfin, c'est peut-être un peu différent. Mais autrefois avec les bêtes, il fallait être vigilant. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, c'était les vaches qui labouraient, n'est-ce pas, avec le cheval. Mais les vaches, D'ailleurs, on en mettait d'ailleurs des comme ça pour pas qu'elle regarde trop à côté, pour pas qu'elle voit trop l'herbe à côté, parce qu'elle pourrait aller ramasser l'herbe à côté. Il fallait bien les faire aller droit devant, droit devant, droit devant. Jamais se retourner. Aller glaner. Aller glaner. Avec ce besoin de se nourrir. Je vais raconter une petite histoire. J'étais jeune, j'allais me marier, je n'ai pas encore marié, et je vivais justement un moment intense avec le Seigneur parce que j'avais des choix à faire dans ma vie. Et Dieu me parlait, mais je n'étais pas sûr, forcément, comme jeune. Je voulais avoir des convictions qui me soient données par des serviteurs fidèles. Alors j'avais interrogé plusieurs personnes, mais je ne sais pas, ça ne me semblait pas très solide comme réponse. Et puis, vous avez vu ici, fortuitement, elle est allée dans le champ de Moab. Et moi aussi, fortuitement. Un jour, ma maman me dit, on venait de perdre mon grand-père, et puis et on avait vidé la maison et mis tous ses livres qu'il avait, chrétiens et Bible et tout ça, dans une malle. Et un jour, on envoie la malle, il y avait des souris qui étaient dedans. Alors maman m'a dit, va vite, Eric, sauver la malle et mettre ses livres en sûreté. C'est pendant les vacances. Et je suis allé dans la malle, j'ai ouvert la malle. Bon, je ne vous dis pas comment les souris sont sorties. Heureusement qu'il y avait un bon chat dans le coin. Et puis, j'ai trié cette malle. Et je ne sais pas pourquoi, fortuitement, un titre d'un livre, mais je le prends dans la poche. Je l'ai lu toute la nuit. Le lendemain matin, j'étais au clair sur la décision que je devais prendre. Dieu m'avait parlé par le moyen d'un serviteur et par le témoignage qu'il rendait. Dieu peut vous parler. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous former. À nous de vouloir chercher et d'avoir des vrais besoins. Ces besoins de se nourrir. On le comprend, bien sûr, par Ruth. Elle arrivait dans un pays, elle n'avait rien. On comprend qu'elle veut se nourrir. Est-ce que c'est peut-être le danger de nos pays. Nous avons peut-être tout de trop, mais pas forcément ce qui est bon et ce qui est bon pour nos vies. Se nourrir de ce que Dieu... Ne va pas glaner dans un autre champ, dira Boaz. Et Ruth va le dire aussi, n'est-ce pas? Vous le savez. Papa, qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Reste là où le Seigneur t'a placé. Et puis, outre le fait d'être là, allons surtout aux pieds de Jésus, dans la nuit. Personne ne l'a vue. Elle est rentrée avant que le matin se lève. Personne ne l'a vue. Ce n'est pas pour se cacher. C'est pour être seul avec le Seigneur. On a besoin dans la nuit, souvent. Et vous le savez, vous le saurez peut-être plus quand vous aurez les cheveux blancs comme moi. Les nuits sont longues, n'est-ce pas? Que souvent on ne dort pas. Alors si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, c'est triste, je préfère vous dire. Mais quand vous avez le Seigneur avec vous, vous ne dormez pas. Oui, d'accord. Mais sa parole vous remplit, sa prière vous accompagne, et les chants que vous avez appris dans votre jeunesse aussi peuvent vous aider. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés tous, et que nous marchions ensemble. Alors, bientôt, rachetés par le sang précieux de Christ, nous serons autour de lui, et nous pourrons dire à celui qui nous a rachetés par son sang, que son nom soit béni éternellement.